On sent d'ailleurs que, parce qu'on a posé la question, quels sont les projets phares que vous avez à gérer? On trouvait intéressant de poser la question à des personnes qui travaillaient toutes sur les sujets de rémunération, voir si on avait des projets qui étaient les mêmes selon les entreprises. Alors, on pose aussi cette question-là dans notre baromètre sur la fonction Comp & Ben. Et ce qui était ressorti l'année dernière, c'était d'abord travailler sur les bases de données, communiquer auprès des managers et puis communiquer à l'ensemble des salariés. C'était les trois grands projets qui étaient ressortis. Là, on se rend compte, quand on a fait l'interview de toutes ces personnes, que les prismes sont aussi très différents. Mais c'est, par exemple, réaliser un benchmark des rémunérations pour toutes les fonctions qui sont au siège. Alors ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est, on a besoin d'abord de travailler sur du concret. Nathalie en parlera après. On a besoin, non pas uniquement de travailler au feeling, mais d'avoir des éléments pour ça. Or, comment voulez-vous, et ce n'est pas pour vendre les outils du consultant, hein, et nos différentes enquêtes, mais comment voulez-vous qu'un Comp & Ben, même si expert soit-il, puisse faire des enquêtes s'il a zéro en budget? Il ne peut pas lui-même, il va être bien obligé de les acheter, de participer, d'avoir des éléments. Bon. Donc pour ça, quand il n'a pas de budget, la première sont des réalités, ce qui ressort, c'est déjà se benchmarker, savoir quel est le fameux salaire du marché. Ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est aussi, on va avoir un projet, par exemple, qui concerne les expatriés. Nous sommes dans la refonte de la politique de mobilité internationale. Donc, on est en train de travailler sur des sujets très pointus. Ou on est en train de redéfinir complètement la politique salariale des non-cadres. Donc, on voit dans tous les témoignages, il y a une vision qui peut être globale, stratégique. Et puis, deux ou trois sujets, selon la société, c'est on travaille sur les expats, ou on fait un benchmark, ou on va sur telle ou telle fonction, mais on a besoin de travailler là-dessus et, comme vous le verrez après, avec un point fort sur tout ce qui est communication sur le sujet. Là où aussi on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un avancement, on va dire, de la fonction, c'est que du contrôleur de gestion qu'il était avant, le Comp & Ben devient maintenant un communicant, ou doit devenir un communicant. C'est qu'une fois qu'il a fait ses petits travaux, une fois qu'il a fait tout son benchmark, qu'il a fait tout son contrôle sur les coûts, eh bien après, il doit donner les éléments au manager, à la direction, aux salariés, pour leur dire, voilà où est-ce que vous en êtes, voilà ce qu'il faut faire. Et du coup, là, c'est un autre travail, c'est autre chose, c'est bien une autre casquette. Et c'est bien pour ça qu'on n'est plus du tout dans le contrôle de gestion, on n'est plus uniquement dans la gestion, mais c'est d'après des éléments qui sont très complexes, parce qu'on parle de rémunération globale, on parle même de rétribution globale maintenant. Avec des choses très compliquées, très, très pointues, très techniques, on est obligé d'en sortir la scientifique moelle pour parler à un dirigeant qui peut-être ne connaît rien au stock, ou à un manager qui ne sait pas ce que c'est qu'un perco, ou au salarié qui ne le saura pas non plus. Donc, d'un contrôleur de gestion au démarrage, et là aussi, c'est valable pour tout RH, qu'il soit DRH ou qu'il soit Comp & Ben, il y a un moment. Une fois qu'il aura fait son benchmark, qu'il aura travaillé sur le sujet, qu'il aura visualisé là où il veut aller de par ce que lui a dit la direction générale, il sera obligé d'en faire un extrait, on va dire, mais adapté aux différents sites. Donc, il aura à faire de la communication. Et c'est là toute la difficulté sur le sujet. Alors, on parlait aussi des difficultés, c'est la gestion des priorités. Alors, ils disent tous, ça c'est bien compliqué, on est obligé de zoomer en permanence du micro au macro. On est obligé de s'adapter à la politique globale de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise. À chaque fois, c'est une réponse au coup de sifflet. Parce que bien sûr, quand il y a un préavis de grève sur la rémunération, on va pas dire, attendez, je fais un benchmark, je reviendrai à vous dans 2 mois. Vous avez le dirigeant qui veut avoir son estimation de retraite, qui dit, attendez, je vais aller voir avec la CNAV, et puis je vais vous faire votre relevé, puis on va voir, et puis le temps de faire les calculs, c'est dans le jour, donc c'est tout de suite. Alors, s'il y a un sujet qui souffre pas ni l'à peu près ni la rapidité, c'est la rémunération. On a besoin de se poser. Et donc la vraie difficulté du RH ou de la personne qui travaille sur le sujet, c'est de temporiser, de gagner du temps, d'avoir les différents outils, de répondre bien, mais vite, et du coup de gérer les priorités. Alors je ne sais pas si c'est
Ah bah c'est toute la problématique de l'enjeu finalement de ce poste enfin de ce métier, parce que par exemple, vous êtes en négociation collective, ça se passe pas bien, on va lancer l'idée de mettre en place, je sais pas, un accord d'intéressement, machin comme ça, il va falloir le designer en 24 heures, quoi. le design d'un accord d'intéressement, si vous ne faites pas de simulation enfin, sur les conséquences des critères, etc., que vous mettez en jeu, c'est. Puis alors, si vous plantez en plus sur le design et les impacts financiers, c'est colossal. Donc, c'est toujours. C'est vraiment un rôle, je pense vraiment, ce rôle de compagnon, enfin, gestion de la rémunération, qui peut être, c'est vraiment le siège éjectable, hein, quelquefois, hein, parce que quelquefois, on négocie sur des trucs, on est sur le tableur Excel en pleine réu, et puis on se dit, ouais, vu de nez, ça devrait faire ça en coup, et hop, on y va. Et puis quelquefois, on croise les doigts parce que ça donne pas toujours ce résultat-là, et c'est vrai qu'il y a des risques énormes. Hein.
Bon, mais surtout actuellement, fait partie du. Ouais. Surtout actuellement où l'activité fait que tout change en permanence sur le sujet et que nos interlocuteurs disent on doit faire des simulations, faire des projections avec des budgets de tout niveau, enfin, et on n'a pas les éléments, on nous demande de réagir vite, mais nous-mêmes déjà, on est en train d'aller chercher dans les textes ce qu'on peut vraiment faire sur le sujet et comment on peut faire évoluer le système de rémunération. Donc on sent qu'il y a une vraie problématique là-dessus. C'est-à-dire que déjà, quand on a quelqu'un qui s'occupe de ça à temps complet, on va dire, les entreprises qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un compagnon Ben, justement, il y a un compagnon Ben, il faut qu'il réagisse au coup de sifflet, tout de suite. Et c'est à lui de savoir. Mais de savoir sur tout. Savoir au niveau statistique, de connaître les salaires du marché, de savoir ce qui se passe au niveau légal, au niveau fiscal, de connaître la stratégie de l'entreprise, d'être contrôleur de gestion, et puis la cerise sur le gâteau, de communiquer. Voilà. Et d'être dans le micro, c'est-à-dire pouvoir répondre à l'individu et de pouvoir gérer ça au niveau collectif. Avec la direction, les managers, le salarié. Donc
puis
c'est ça en permanence.
C'est vrai que ça a un impact énorme sur la motivation. Parce que moi, j'ai souvenir, quand j'avais rejoint Alpha Laval, en fait, mon prédécesseur avait mis en place, lors de la négociation sur les 35 heures, il y avait un dilemme sur 3 jours, en fait, comme souvent ça arrive. Et pour éviter, en fait, compenser les 3 jours, ils avaient fait un transfert de charge, ça s'appelle, avec des super consultants, je ne citerai pas lesquels, qui avaient proposé de faire ce transfert de charge.
Pas nous.
Alors, en clair, hein, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en gros, on va transférer des charges salariales sur des charges patronales. Du coup, on va monter artificiellement le net, sans toucher au brut. Du coup, en termes de coûts, pour le coup, ça fait on gagnait à peu près 3% sur la masse. Donc, c'était super deal pour tout le monde. Un vrai win-win. Puis au fur et à mesure du temps, bon, tout le monde était content, la direction, les salariés, tout le monde. Puis au fur et à mesure du temps, le marché, bon, c'est un peu resserré, on gérait beaucoup de commerciaux, et finalement, les types venaient me voir en me disant, mais attends, moi, je ne suis pas assez payé ici. Bah, comment ça, tu n'es pas assez payé? Ben non, moi, mon brut, il est de temps, et moi, mon copain, là, chez Intel, L'Oréal, ou n'importe où, enfin, en plus, L'Oréal, il est à temps. Ben, je dis non, attends, parce que si tu prends ton net là, c'est. Ben non, vous ne voulez pas entendre parler du net. Parce qu'ils se comparaient toujours sur la base de la rémunération brute. Donc en gros, ce qui avait plus ou moins été un moteur de motivation, un vrai win-win pendant 3 ans, s'est avéré une vraie problématique de gestion humaine à terme. Et du coup, il a fallu refaire chemin inverse, racheter les 3% dans le cadre d'une négociation annuelle. Ça a été super touchy, mais. Bon, tout ça pour remettre les rémunérations au prix du marché et montrer dans le cadre d'un BSI machin que finalement les gens n'étaient pas si mal payés que ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a derrière des enjeux. Dès qu'on va toucher un aspect de la rémunération, quelquefois, mais même en gestion du temps de travail, de toute façon, on mesure pas tout le temps. Enfin, l'impact que ça peut avoir, l'impact à moyen terme que ça peut avoir finalement sur la motivation, sur la performance, c'est toujours un peu le.
Alors, heureusement, je dirais, parce que bon, même s'il parle de difficultés de mise en œuvre, les personnes qui travaillent de la rémunération, je trouve globalement, elles sont plutôt humbles, elles se remettent pas mal en question. C'est chez AstraZeneca, c'est quelqu'un qui va dire penser qu'un projet est réussi lorsqu'il est bien pensé ou bien déployé. Voilà, ça c'est une difficulté. Ou quelqu'un, toujours la même personne, qui va dire nous RH, on a tendance à être beaucoup, parfois trop théorique et trop conceptuel. Donc à être trop aussi dans le système, dans le concept, on a intérêt à aller justement de plus en plus dans le micro. Donc une des solutions, c'est ça. Ou alors, chez Decathlon, le company manager qui dit qu'il faut savoir arbitrer, choisir les meilleurs outils répondant à l'environnement de l'entreprise, tout en veillant au respect des contraintes budgétaires. Mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de choisir les outils. C'est nous qui devons vous. Donc la difficulté, effectivement, on a des contraintes budgétaires, mais c'est à nous de trouver des solutions. Chez CFAO, quelqu'un qui va dire non, on n'a pas de difficulté, on n'a pas de frein. On a une résistance naturelle au changement partout, de la part de la direction générale, de la part des salariés et peut-être moins des partenaires sociaux, mais c'est ça. Donc à nous d'être justement communicants, pour faire, de sortir de nos chiffres, de montrer avec différentes simulations qu'on peut aller dans cette voie-là. Dans le groupe Sartec, Sandrine Vetter dit « Pour moi, la difficulté, c'est la gestion des priorités, mais qu'est-ce que je fais ?» Ben, ça veut dire un investissement personnel permanent. Je fais plusieurs projets en parallèle parce que je sais qu'il y en a certains qui peuvent s'arrêter. Donc, du coup, je continue sur plusieurs projets en même temps sur la rémunération. Je ne me focalise pas sur un projet parce que, par expérience, quand il y en a un, il s'arrête à cause d'un des acteurs. Et puis, il y a des personnes qui ont plus de, on va dire, de recul, voire d'humour par rapport à cette situation qui est effectivement difficile. C'est ce qui fait la grandeur du métier, le fait de travailler sur la REM. C'est-à-dire que on a à la fois une liberté, un rôle de gardien, le droit de dire non, donc ça c'est des gens qui prennent le pouvoir, et surtout le fait d'aider les managers à trouver des solutions en sortant des petites boîtes toutes faites. Parce que effectivement il y a des concepts, effectivement il y a des règles, mais à nous d'être créatifs, d'aller trouver d'autres solutions. Il y a des concepts, il y a des règles, il y a celles qui sont en place dans l'entreprise, mais on est là aussi pour être les artisans. Donc aller sur autre chose que des messages tout faits, de manière à, une des personnes disait ça aussi, ne pas être uniquement sur des chiffres, on est sur l'humain, et qui dit l'humain dit possibilité de voir les choses un peu autrement. Alors, on est bien sûr sur la théorie de l'équité, mais quand même, quand on va au niveau du micro et de l'individu, on peut être quand même plus créatif. Alors, il y a quelque chose qui est ressorti, un nouveau, on va dire, concept, en tout cas une nouvelle solution, que j'ai trouvé assez amusante et pertinente. C'était quelqu'un qui travaille justement au niveau international, qui dit un champ de contribution, c'est de faire émerger dans notre périmètre le local. C'est-à-dire le global, ce qui est décidé en global, au niveau du siège, au niveau des différents individus, au niveau des managers, et au niveau du local. Alors le local, ça va être aussi vrai pour le site, pour le pays, et du coup, moi, ma mission, c'est faire du local. Je fais les deux. Je suis obligé de voir le global, je suis obligé de faire du local, mais mon rôle, c'est ça. Donc, quand on parlait de Zoom en permanence, c'est je me fixe dès le début ça comme objectif. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu vis au quotidien, si tu fais du local sans le savoir. Ou,
voilà. C'est ça aussi.
Donc, on a senti que c'était quelque chose de... C'était amusant qu'il y ait le mot n'est pas déposé par la personne, donc vous pouvez l'utiliser. On a senti que c'était la vraie problématique, la vraie nouveauté, on va dire, sur le sujet, c'est on est obligé de faire les deux, notamment dans des pays franco-français dépendants de groupes anglo-saxons, mais ne serait-ce que parce qu'en permanence, on passe de la stratégie à l'opérationnel, du macro au micro, du monde au pays, voire même au niveau, quand on dit local, au niveau régional. Aujourd'hui, pour faire beaucoup d'enquêtes de salaire, alors pas uniquement sur les métiers émergents, on se rend compte que ce qui ressort le plus, qui est le plus discriminant en termes de salaire, ce n'est pas forcément le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, c'est la localisation. Si vous êtes en région parisienne, dans une grande métropole ou dans le reste de la province, vous avez des salaires qui sont différents, qui malheureusement ne sont pas le reflet du niveau de vie, parce que si on aurait des salaires parisien qui serait au-delà de 15% de plus que ceux de la grande métropole ou du reste de la province, mais il y a une vraie différence qu'on retrouve quels que soient les métiers, c'est-à-dire quelles que soient les fonctions aujourd'hui. Donc le local joue. C'est-à-dire que vous, si vous êtes implanté à Marseille, si vous êtes implanté à Paris ou si vous êtes implanté dans un petit village, il y a une différence en termes de rémunération globale, c'est-à-dire les niveaux de salaire sont en moyenne plus élevés à Paris que dans la grande métropole. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on voit de manière générale sur toutes nos enquêtes de rémunération, les nôtres et celles des confrères, c'est que la localisation est importante. Ce qui n'est pas forcément évident à faire passer à un Américain qui lui va dire ben, on va faire une politique française de rémunération, que le salarié soit à Paris ou qu'il soit à l'Agassi ou à Marseille, c'est un salaire français. Ben non, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il y a une différence. Donc cette pertinence du glocal se retrouve, même si les gens ne l'expriment pas, mais ils le vivent au quotidien. Alors, quand on. Il y a aujourd'hui des solutions, parce que je voulais parler des. On va dire des difficultés. Heureusement, il y a les personnes parlent de solutions, de.